aujourd'hui, c'est votre émission À ta santé. Bienvenue sur O2 Radio. Bonjour à toutes et à tous, quel bonheur et plaisir de vous retrouver pour votre émission À ta santé sur les ondes de O2 Radio, la radio des Hautes-Garonne, 91.3 de la bande FM et sur internet audoradio.fr. À ta santé, l'émission de radio qui nous parle aussi bien de la santé humaine que de la santé animale. On est parti pour votre émission santé et aujourd'hui je reçois Aurélie Guignard qui va nous parler de l'association. Et après, comment ça va Aurélie ?
Bonjour, ben, ça va bien, merci de me recevoir, c'est un vrai plaisir d'être ici.
Bon, c'est chouette. Et je serai accompagnée pour co-animer cette émission de Juliette. Comment ça va Juliette ?
Ça va très bien, avec la fraîcheur matinale.
Et la pluie qui nous accompagne.
Tout à fait.
Et enfin, à la technique, j'aurai donc Frédéric pour nous faire le son. Super, merci à tous et à toutes d'être là. Et Aurélie, avant de commencer et de lancer le sujet sur l'association, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ?
Oui, donc moi c'est Aurélie Guignard-Daguisé. En quelques mots, je suis entrepreneuse, je suis maman, je suis femme et je viens ici pour vous parler de l'association Et Après qui me tient particulièrement à cœur.
Super. Eh bien, écoute, on va faire d'abord tout de suite notre première pause. Et tu as choisi Derrière le brouillard de Grand Corps Malade et Louane.
C'est ça.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
Y'a pas de recette pour supporter les épreuves, remonter le cours des fleuves quand les tragédies pleuvent. Y'a pas de recette pour encaisser les drames, franchir les mers à la rame quand l'horreur te fait du charme. Y'a pas de recette, toi t'en avais pas non plus, personne t'avait prévenu, tu t'es battu comme t'as pu. Y'a pas de recette quand l'enfer te serre la main, abandonner c'est humain, l'avenir c'est loin. Mais tu t'es mise à chanter, même pas par choix, comme à chaque chute, à chaque fois ça s'est imposé à toi. Chanter comme un enfant surpris, comme un instinct de survie, comme un instant de furie. Chanter pour accepter, exprimer, résister, avancer, progresser. Exister, chanter comme une résilience, une délivrance, chanter comme une évidence.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
À quel moment tu comprends que c'est ton truc, que la musique revient pour te relever de chaque chute? À quel moment tu sais quelle est ta boussole, quand la vie te punit, la musique te console? À quel moment ce piano a chanté, ses accords t'ont hanté, ont choyé ta santé? À quel moment il est ta respiration, et à quel moment on en fait une chanson?
Si je me sens comme une enfant, j'ai déjà eu plusieurs vies, je peux regarder devant en chantant ce qu'on m'a dit.
Moi aussi j'ai connu une sorte de brouillard et j'ai entendu ce piano au loin. Et moi aussi sans vraiment le prévoir, naturellement ma voix l'a rejoint. On n'a pas du tout la même histoire et finalement quelques points communs. Comme un air de force oratoire, j'écris, tu chantes, le brouillard est bien loin.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
Pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Aurélie Guéniard-Daguisé nous parle donc de l'assaut et après. Alors on parle souvent du combat acharné contre le cancer, mais beaucoup moins du silence qui peut suivre l'après-traitement. Et qu'est-ce qui t'a personnellement frappé dans ce vide sur les territoires ruraux post-traitement au point de te dire « il faut que je crée après ».
Alors, donc moi, pour la petite histoire, pour remettre dans son contexte, j'ai vécu deux cancers à un an et demi d'intervalle à peu près. Donc, il y a des choses que j'avais déjà perçues et ressenties à la suite de mon cancer du sein en 2021. Mais ça a été encore plus prégnant à la suite de mon hospitalisation en 2023 pour une leucémie aiguë myéloïde. J'ai passé grosso modo 5 mois entre l'hôpital, la maison. Donc en fait, sur le pendant, votre cerveau, il est focus sur « je me sauve la peau, quoi. J'ai envie de vivre, je vais tout faire pour… »
L'essentiel.
L'essentiel, en fait, pour pouvoir rester en vie. Et puis, c'est une grosse machine de guerre, voilà, vous avez des opérations, des traitements. Donc en fait, vous avez le cerveau, il switch, il n'a pas le temps de réfléchir sur « qu'est-ce que je vais faire après ?» Sauf quelques petits moments, mais ça passe vite. Mais l'après, en fait, il y a deux choses qui m'ont un peu percutée. C'est que vous rentrez chez vous et en fait, il n'y a plus de traitement, il n'y a plus de suivi, il n'y a plus de médecin, il n'y a plus rien. Donc, vous êtes chez vous, seul, face à votre quotidien où vous êtes en arrêt maladie, vous ne savez pas socialement où vous placer parce que voilà, la société à l'heure d'aujourd'hui, elle est faite comme ça, qu'on le veuille ou non. Moi, je ne le veux pas forcément, mais on nous met dans des cases. Donc là, moi, j'étais dans la case arrêt maladie. Donc j'étais chez moi avec tout ce que j'avais vécu. Hein, c'est 3 ans, ouais, c'est traumatisme. Votre environnement proche, il est présent. Enfin, moi, j'ai aucun doute. Et ma réalité, au niveau de ma famille, de mes amis, il y a eu beaucoup de présence. Et je leur remercie. C'est une chance parce que tout le monde n'a pas ça. Pour autant, sur l'après, en fait, et ce qui est totalement légitime et normal, tout le monde reprend un peu sa vie, en fait. Et les appels s'amoindrissent. Parce que les gens, ils se disent, chouette, c'est une fin heureuse pour Aurélie, elle est encore en vie, elle va reprendre sa vie. Mais en fait, c'est pas ça qui se passe. C'est, ok, je suis en vie, mais excusez-moi du terme, mais putain, qu'est-ce que c'est douloureux, en fait, parce que je suis chez moi, je sais plus qui je suis, socialement, ma vie, elle a été mise entre parenthèses, donc en fait, qu'est-ce que je vais raconter ? Pas grand-chose, à part que je suis malade, que j'ai été malade, ce qui n'intéresse personne, en fait.
Alors, quel sentiment on a à ce moment-là, justement, d'abandon
on a une sorte d'abandon, de tristesse, parce qu'en fait, on fait le deuil sur plein de choses. Et puis, un peu d'incompréhension, parce que les gens reprennent leur vie, les amis vous appellent moins, et puis sont parfois maladroits malgré eux. Et puis, nous, on est aussi maladroits en tant que malades, parce que notre cerveau, il est vraiment focusé sur des choses que les autres ne comprennent pas et sur lesquels n'ont pas de... Enfin, savent pas, en fait. C'est tout simplement ça.
Parce qu'ils ne l'ont pas vécu.
Parce qu'ils l'ont pas vécu, ou parce qu'ils l'ont vécu à travers nous, mais pas de la même manière que nous. Donc, en fait, on est complètement paumé. C'est comme si, je prends souvent cet exemple-là, et je ne sais pas ce que ces personnes ont vécu, mais j'ai la sensation qu'il y a des points un petit peu de similitude, même si je reste très, très humble par rapport à ça. C'est comme si, en fait, on vous kidnappait de votre vie. On vous mettait dans une pièce noire, et puis un jour, l'État français vous retrouve, vous renvoie en France par avion, et puis vous êtes sur le tarmac, et puis tout le monde vous applaudit. Bravo, t'es en vie et puis on vous remet dans votre vie. Mais en fait, au vu de ce qu'on a vécu, c'est impossible, en fait. Et les gens, moi, j'ai entendu parfois, mais Aurélie, reprends ta vie, t'es en vie, avance. Oui, mais en fait, ce n'est pas si facile que ça.
Oui, ce sont sûrement les projections de voilà. L'entourage, de l'environnement.
Et puis, parfois, les gens n'ont plus envie d'entendre parler, ce qui est normal. Ça, c'est très important de dire que c'est normal. Mais pour autant, ce qu'on vit à l'intérieur de nous par rapport à nos changements, au niveau de notre corps, au niveau de nos émotions, au niveau de notre place, au niveau de la société, la notion du travail n'est plus la même, notre façon de voir la vie n'est plus la même, parce qu'on a touché du doigt, du corps, de notre cerveau, de notre âme, la mort, en fait, tout bien simplement. Sûr. Et que ça, on ne peut pas nous l'enlever. Et en même temps, on aimerait faire autrement, mais on peut pas faire autrement. Et ça, ce n'est pas accompagné, ou très, très peu. Ou si c'est accompagné, c'est sur Bordeaux Centre. Et que la réalité, c'est que quand on habite sur des territoires ruraux tels que Créon, tels que Fargues, tels que Tresse, tels que Targon, tels que Sadirac, tels que Lignan, et je ne vais pas tous les citer parce que sinon j'en ai pour la journée.
La Gironde est grande. Hein,
voilà, oui. Mais l'entre-deux-mers, en tous les cas, il ne faut pas se voiler la face, il faut prendre la voiture. Si on veut aller, par exemple, à la Ligue, ce que j'ai fait, ils apportent beaucoup de soutien. À la Maison Rose, c'est pareil, ils organisent beaucoup de choses qui sont fort accompagnantes, mais c'est sur Bordeaux.
Oui, ça veut dire que ça isole pas mal de personnes à ce moment-là.
Et donc, ça isole parce qu'on n'a peut-être pas la capacité physique, l'envie, la motivation de pouvoir le faire.
Ah ben, du coup, voilà, tu as un petit peu anticipé parce que, justement, pourquoi c'est plus difficile de se reconstruire au cœur de nos campagnes plutôt que dans une grande métropole comme, par exemple, Bordeaux ?
Tout simplement parce qu'il y a une problématique d'une part de mobilité, parce que effectivement après des traitements lourds, on n'a pas la capacité physique, on est fatigué, il y a des pertes cognitives. Donc se concentrer ne serait-ce que 30 minutes en voiture avec les embouteillages qu'on connaît, il faut être concentré et tout, parfois c'est pas possible. Et puis mine de rien, il y a des pertes financières qui parfois nous empêchent de pouvoir mettre de l'essence dans nos voitures. Je ne veux pas me positionner et positionner les gens qui sont dans l'après en tant que victimes, attention, ce n'est pas mon intention, c'est des faits. Voilà, on est sur des choses très factuelles que j'ai vécues et que plein d'autres vivent. Et donc, donc ça, je l'ai ressenti comme ça. Et je me suis dit, et puis j'ai cette âme, j'ai ça en moi, je ne sais pas faire autrement. Dès que je vois des choses qui ne me conviennent pas, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation ? Et moi, je suis quelqu'un qui s'engage très facilement, j'adore, ça fait partie de moi. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour justement... faire autrement, en fait, et puis peut-être apporter des petites choses, des petites graines pour apporter
Alors,
une amélioration.
Alors à ce moment-là, Aurélie, est-ce que vous avez pu interpeller les collectivités territoriales, les municipalités, des structures qui pourraient aussi coopérer avec vous ? Comment vous avez procédé ?
Alors, dans un premier temps, en 2024, j'étais pas bien, psychologiquement, émotionnellement, parlant, même physiquement. C'était compliqué pour moi. Me lever le matin, parfois, c'était même très compliqué pour prendre le petit-déj avec mon mari et mon fils. Parfois, je me faisais force, mais c'était important pour moi d'être présente parce que je n'avais pas été présente pendant 5 mois auprès de mon mari et mon fils. Parce que la maladie faisait que ce n'était pas possible. Et je me faisais force. Et puis, dans ma tête, je me suis dit, Et puis, j'ai eu une amie qui m'a aidée et qui m'a dit « Écoute, Aurélie, si tu veux, je t'aide à écrire quelque chose. » Donc, on s'est mis toutes les deux en visio, parce qu'à l'époque, elle était à l'île de La Réunion. On s'est mis à écrire. Elle m'a accompagnée à écrire un projet. Voilà. Et l'idée de base, c'était de créer un programme qui permette aux gens dans l'après de retrouver goût à faire des choses. Parce que sur l'après, c'est ça qui est difficile, c'est qu'on n'arrive plus à se projeter. On n'a plus envie, on n'est plus motivé et on se dit bah, à quoi ça sert de se lever le matin. Et donc l'idée, c'est ça, c'est d'accompagner les gens à retrouver un élan de vie, à se remotiver, à sortir de chez soi et à faire des petites choses en mode petit projet, quoi.
C'est quelque voilà. chose de réalisable et pas du tout...
Quelque chose de réalisable, pas quelque chose d'extraordinaire. Hein. Ne serait-ce que pouvoir ressortir de chez soi, pouvoir reparler avec des gens, ne serait-ce que d'aller vers des choses liées à l'art, liées au plaisir, retrouver du plaisir.
Oui, retrouver du sens, certainement.
Voilà, aussi. Et retrouver du sens. Ça, c'était le projet de base, donc je l'ai écrit. Et puis un jour, moi je vais souvent, je vais faire un peu de pub, mais c'est pas grave, je vais souvent dans un petit salon de thé sur Farnes, qui est génial, qui s'appelle Lulu la Praline, et Ludivine, la gérante, un jour elle me dit « Ah Aurélie, il faut que je te donne les coordonnées d'une de mes clientes, tu vas voir, elle est passée par la même chose que toi, mais elle est dans une dynamique aussi hyper, voilà, comme toi quoi. » Et donc on s'est appelés, on est allé prendre un café, on a déjeuné ensemble et à un moment donné, je lui ai dit « Écoute, Leslie, je voudrais te partager un projet que j'ai. Je te l'envoie, tu le lis et tu me dis ce que tu en penses. » Et puis, on s'est revus quelques jours après et elle me dit « Tiens, ton projet, il est génial. J'adhère complètement et je ne comprends même pas pourquoi ça n'existe pas encore sur le territoire. Je te suis. » Et puis, en parallèle, j'ai un ami de longue date avec qui j'ai déjeuné. Et puis, il me dit, comment tu vas? Quels sont tes projets? Et je lui en parle. Je lui dis, écoute, Claude, c'est un monsieur qui a 75 ans, voilà, que je connais de par une vie un peu publique et politique. Et je lui dis, écoute, voilà. Comme tu me demandes, je vais te partager mon projet et puis je voudrais que tu me donnes ton avis, tout simplement ton avis, parce que son avis m'est cher. Et puis je lui envoie et puis quelques jours après on redéjeune ensemble et il me dit écoute Aurélie, à la lecture de ton projet, je prends enfin conscience qu'en fait vis-à-vis de ma femme qui a eu aussi un cancer du sein, et vis-à-vis de toi, je suis passée à côté de plein de choses parce que tout simplement, je n'avais pas le mode d'emploi.
Bien sûr.
Et ton projet, quand je l'ai lu, il m'a permis de prendre conscience de ça. Et rien que pour ça, je ne sais pas ce que je vais venir faire dans ton projet, mais rien que pour ça, je te suis. Et c'est comme ça qu'est né Et Après. Donc, ça n'avait pas du tout ce nom-là, ça n'avait pas du tout cette forme-là dans mes écrits. Claude nous a accompagnés à ce que ça évolue. Et puis, bon an, mal an, on en est là aujourd'hui. Donc, pour répondre à votre question, oui, on a rencontré les trois présidents des trois communautés de communes qui entourent un petit peu la base du siège de l'association, qui est Sadirac, Lignan, puisque et Claude et moi, nous vivons sur Sadirac, et Leslie vit sur Lignan. Pour autant, nous ne voulons pas faire une association communale. Notre projet, il va bien au-delà de ça. Pour nous, c'est un territoire, c'est une association intercommunautaire. Et c'est pour ça que dans un premier temps, on s'est vraiment attaché à rencontrer les élus des trois communautés de communes qui sont la communauté de communes du Créonnais, la communauté de communes des Portes de l'Entre-deux-Mers et la communauté de communes des Coteaux Bordelais.
Qui, j'imagine, ont été sensibles à votre projet.
Ils ont été sensibles à notre projet, puisque c'est un projet quand même d'intérêt général, même si on n'a encore pas l'attestation, mais c'est quand même un projet d'intérêt général de santé publique, puisque c'est un moment clé, l'après, qu'aujourd'hui, plus de 50% des personnes qui vivent un cancer sont en âge d'être en activité professionnelle. Ça ne s'adresse plus qu'aux personnes âgées, bien au contraire. Les cancers, il y a de plus en plus de jeunes gens qui l'ont. Et la grande chance qu'on a aujourd'hui en 2026, c'est qu'on n'en meurt plus. La preuve en est, moi j'ai vécu un cancer du sein et une leucémie et je suis encore en vie, grâce au ciel, merci.
Bienvenue.
et donc voilà, donc bon an mal an, on a structuré notre association, on a rencontré aussi la CPTS, qui est la communauté des professionnels de santé sur les territoires, qui évolue aujourd'hui. La CPTS est une association qui évolue sur l'ensemble du territoire, sur 72 communes rurales. Et nous, notre projet, c'est vraiment d'informer, de parler, d'agir et de construire ensemble sur les territoires ruraux après un cancer. Donc nous ne nous adressons pas à une zone urbaine, c'est vraiment zone territoriale rurale. On n'est pas sur le pendant, même si forcément il y a des personnes qui viennent à nous qui sont encore dans un traitement, hein, parce que l'après, il y a encore des traitements. Après, oui. Sur le cancer du sein, par exemple, on a ce qu'on appelle l'hormonothérapie, qui est un traitement pour justement rééquilibrer un peu les hormones, enfin, diminuer les hormones pour plus qu'il y ait de fluctuations. Et donc, c'est un traitement de long cours après les traitements de chimio, etc. Et qui crée des effets secondaires. Et on est dans l'après, en fait.
Alors, ces patientes-là, justement, qui ne sont pas encore en phase de rémission, mais qui sont juste après les soins, comment peuvent-elles être, je dirais, accompagnées par votre association et quel est le moyen de communication que vous mettez en place pour justement, je ne dirais pas les interpeller, mais leur faire connaître que vous êtes là quelque part et qu'il peut y avoir l'information du lien à faire quelque part?
Alors, il faut savoir qu'à aujourd'hui, notre association, elle a à peine un an. On l'a créée en avril 2025, donc on est tout bébé. Donc on n'a pas la prétention d'apporter une promesse où on va avoir une solution et une baguette magique. Non. De toute façon, la baguette magique, personne ne l'a. Et si on n'a pas envie d'être accompagné, on ne peut rien faire. Il faut aussi un peu de volontariat et d'action. Pour autant, notre première action, elle a été l'année dernière. Parce que c'est vrai que quand on en a discuté tous les trois de cette association et de ce projet, on s'est dit, OK, donc Leslie a eu des besoins. Moi, j'ai eu des besoins qui n'ont pas été
comblés
et accompagnés. Pour autant... Est-ce que c'est partagé? Et nous, notre volonté, ce n'était pas de monter des actions pour monter des actions, mais c'était de monter des actions qui soient en cohérence avec les besoins des gens sur le territoire. Et nous ne souhaitions pas non plus monter une association, encore une, sur uniquement le cancer du sein et que pour les femmes. Ça, c'était hors de question.
Ah oui, justement, là, le public, c'est tout le monde.
Le public, c'est vraiment toutes les personnes qui ont été impactées par un cancer. On ne parle pas d'autres maladies, parce qu'aujourd'hui, les autres maladies, il y a des points de similitude sur l'après, même sur des maladies chroniques, etc. Mais nous, c'est un sujet qu'on ne connaît pas. Les autres maladies, ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant, nous, notre sujet qu'on maîtrise et qu'on connaît, dont on a fait l'expérience, c'est le cancer.
Ouais.
Donc pour l'instant, voilà, on se concentre sur le cancer.
Alors moi, j'aimerais un petit peu revenir sur justement... se reconstruire au cœur de nos campagnes dans une grande, plutôt que, enfin, c'est plus difficile que dans la grande métropole. Est-ce que c'est aussi parce que finalement il manque de professionnels pour l'après, justement?
Je suis pas sûre qu'il manque de professionnels. Je pense qu'il existe pléthore de professionnels, justement, mais
qui ne sont peut-être pas connus.
Voilà, dont on n'a pas connaissance. En fait, vous voyez, moi, ma démarche est pendant le cancer du sein et pendant la leucémie, parce que moi, je suis comme ça, mais tout le monde n'est pas comme ça. Moi, j'ai besoin de faire croire à mon cerveau que je suis actrice, en fait. Même si, pendant la maladie, clairement, je n'étais pas actrice, je subissais beaucoup de choses. Mais ma manière de faire, ça a été de dire, bon, OK, je vais faire des recherches, je vais prendre le maximum d'informations pour... Voilà, faire semblant que je maîtrise un petit peu, pour pas sombrer, en fait, tout simplement. Et donc, j'ai fait beaucoup de recherches sur les effets secondaires de la chimio, sur ce que je pouvais faire, sur comment je pouvais l'appréhender, sur comment je pouvais t'accompagner. Donc, en fait, voilà, j'ai fait pas mal de recherches sur, sur l'après, justement. Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais faire après pour aller mieux? Donc, des thérapeutes, mais aussi des professions plus médicales, artistiques, parce que moi, j'adore le théâtre. Donc, c'est un moyen aussi, l'art, de pouvoir s'accompagner, mais aussi de la cure thermale. Et en fait, on vous donne pas ce genre d'informations.
C'est vrai.
Donc, en fait, de par le fait d'être allé chercher toutes ces informations, j'ai cumulé, en quelque sorte, une petite besace de toutes ces connaissances. Et du coup, l'idée aujourd'hui de l'association, c'est un peu ça. C'est de centraliser toutes ces informations pour pouvoir les donner et les offrir aux gens qui viendraient à nous. Donc, ça répond à vos deux questions. C'est-à-dire que, oui, il existe des professionnels, il existe des accompagnements, mais dont on n'a pas connaissance. Mais que l'association peut avoir des connaissances, parce que sur la vie professionnelle, par exemple, moi aujourd'hui, j'ai un statut de pension d'invalidité, je suis RQTH, mais ça se fait pas comme ça, et ça demande à être accompagné.
Oui, je pense que le parcours est long et peut être très laborieux.
Voilà, et l'association, elle est là pour ça aussi. Et puis, il y a aussi la différence entre le fait d'être salarié et le fait d'être indépendant. Ce qui n'est pas du tout la même chose.
Non, pas du tout, effectivement.
Voilà. Quand on est salarié, effectivement, on peut se sentir isolé, on peut se sentir mis de côté. Pour autant, on peut se faire accompagner par des dispositifs bien précis, bien fléchés. L'indépendant, faut aller chercher quand même. Mais il existe aussi des choses. Donc, voilà. L'objectif de l'asso, c'est vraiment ça. C'est aussi aller recenser ce par quoi on est passé, Leslie, Claude et moi, en tant que patients, mais aussi en tant qu'accompagnants et aidants, parce que l'association ne s'adresse pas qu'aux personnes qui ont été impactées.
Pas
dans
qu'aux
leur
aidés,
charge.
Mais aussi aux aidants, du coup.
Voilà, les aidés, les aidants, les proches, les familles, mais aussi les structures médico-sociales et les structures entreprises, collectivités, associations, qui peuvent être dans un contexte de réinsertion de personnes qui ont vécu ça, mais ça s'accompagne aussi parce que aujourd'hui on ne réinsère pas une personne de la même manière que quand elle est passée par un congé longue maladie par un traitement de chimio, etc.
Bien évidemment.
Qu'il y a des pertes cognitives, parce que comme je vous le disais, la notion de la vie, elle n'est plus la même, la notion du travail, elle n'est pas la même. Effectivement, y a une reprise possible en mi-temps thérapeutique ou en temps aménagé. Mais voilà, il y a plein de choses qui viennent se bousculer, dont les structures n'ont peut-être pas connaissance. Non pas parce qu'elles ne s'y intéressent pas, mais parce qu'en fait, aujourd'hui, mine de rien, et ça, faut le dire, le cancer est une maladie qui ne se donne pas, mais dans la projection de chacun, peut faire peur et qui reste un sujet très tabou. Et après, on commence doucement à en parler, mais c'est un sujet tabou parce qu'on se dit, la personne, elle est guérie, hop, elle reprend sa vie et on va la reprendre dans un poste identique.
Non, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est sûr.
Voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, l'idée de l'asso, c'est aussi ce travail-là.
D'accord, pardon.
Aurélie, justement, si tu dois résumer la mission de « et après » en 3 verbes d'action, et seulement 3, et je sais que je pense qu'il y en a beaucoup d'autres, mais seulement 3, tu choisirais quoi pour définir l'impact immédiat sur ton territoire ?
L'impact immédiat sur mon territoire, c'est être présent, accompagner, informer, et je vais déroger, je vais dire un troisième, co-construire.
Ensemble des projets pour justement la réinsertion, du coup.
La réinsertion, retrouver sa place et retrouver un élan qui redonne envie de faire des choses, tout simplement.
Et alors comment, parce que dans la vie d'un village, par exemple, c'est compliqué, sans doute, ou une communauté rurale, du coup, à part aller voir les mairies et les CDC et tout ça, là, Comment tu as fait ? Est-ce que tu as été voir aussi des médecins pour leur dire, bon, ben voilà, on existe, si vous avez des patients dans ce cas-là ?
Comme je disais, au tout départ de l'association, on s'est dit avec Leslie et Claude, ben, on ne va pas monter des actions pour monter des actions. Nous, ce qu'on veut, c'est aussi connaître les besoins, parce que nous, on a eu des besoins, mais est-ce qu'ils vont être partagés par l'ensemble des habitants qui ont vécu ça ? Donc, on a élaboré une enquête. Un questionnaire pour les patients, pour les aidants, pour les proches, mais aussi pour les médecins, les professionnels de santé et les entreprises, qu'on a diffusé, voilà, à notre manière, hein, avec nos réseaux, avec nos moyens de communication, site internet, réseaux sociaux,
etc. Ah oui, il me semble que j'avais eu ça.
Voilà. Et donc, cette enquête, à aujourd'hui, on en a fait un début de diagnostic territorial. Donc, on n'est pas une agence d'études, il n'y a rien. Hein. On fait ça avec nos petits moyens. On bricole, mais on essaie de bien bricoler quand même, de manière un peu professionnelle. Donc, à aujourd'hui, on a à peu près 200 retours. Qui se partagent entre des patients, des aidants, des professionnels de santé et des entreprises. Donc, de ça, on a retiré un certain nombre d'informations. Et en tête, on avait quand même deux actions concrètes qu'on voulait mettre en place qui viennent répondre favorablement aux besoins. Et la première action qui va voir le jour là très très vite, puisque ça devrait être présent dès début mars, on a eu la chance d'avoir un don d'une caravane, puisque notre idée c'était d'être vraiment en proximité proche des habitants des territoires. Donc on s'est dit, ok, on va chercher des salles communales ou autres, on va être proche, mais ça va demander peut-être aux gens de Fargue d'aller sur Créon, ou des gens de Créon, d'aller sur Carignan. Enfin. Et on s'est dit, qu'est-ce qui va permettre d'être au cœur des villages, en fait, et des villes, du territoire. Et donc, la seule solution qui nous est venue à l'esprit, c'est une caravane qui permet de faire de l'itinérance.
Donc, cette caravane bouge, elle est mobile.
Donc, cette caravane, elle bouge, elle est mobile, elle est itinérante. Donc, allez dans le jardin de Claude, pour l'instant. C'est une caravane qui correspond totalement aux valeurs de l'association et de l'après, puisque c'est une caravane qui a plus de 50 ans, qui est une caravane pliante, et on est en train de lui refaire une beauté. Claude travaille d'arrache-pied sur ça. On est en train de lui refaire une beauté, de rendre une caravane vintage.
Une deuxième jeunesse.
Voilà, une deuxième jeunesse. Une petite caravane vintage qu'on va vouloir très colorée, très cocooning, qui va permettre justement d'aller de village en village et de se poser dans ces villages, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout connu, de créer peut-être une certaine curiosité. Et puis, l'idée de cette caravane, on l'appelait entre nous la parenthèse, mais est-ce que ça va être ça le nom ? On ne sait pas encore.
Donc, elle n'est pas encore estampillée.
Elle n'est encore pas estampillée, mais ça va être la parenthèse et après, en tous les cas, pour l'instant. Et l'idée de cette caravane, c'est d'en faire un projet à part entière. C'est-à-dire que nous, on va faire des choses pour la rendre un peu plus belle, mais elle ne va pas être finalisée. C'est-à-dire que des personnes, et c'est déjà le cas, hein, des personnes qui se sont positionnées sur « Ah, ben moi, je couds, donc je veux bien vous faire des rideaux, je veux bien vous faire des coussins, je veux bien vous faire des housses pour la mousse. » Voilà. Donc, l'idée, c'est en fait que les habitants, notamment les habitants qui sont dans l'après ou des aidants ou tout un chacun qui aurait envie de donner un peu de temps, un peu de bonne volonté, puisse venir et s'approprier ce projet. Parce que pour nous, c'est vraiment un projet à part entière. Voilà. Donc à aujourd'hui, on a refait tout l'intérieur de la caravane. Enfin, Claude a refait tout l'intérieur de la caravane. C'est une caravane qui devrait accueillir en intérieur à peu près 8 personnes. Donc cette caravane, elle va être là pour que les gens puissent y venir, partager un moment, papoter, pas forcément que de la maladie, de ce qu'on a envie, en fait.
Bien sûr, des choses de la vie, tout simplement.
Des choses de la vie, pour pouvoir sortir de chez soi, pouvoir parler aussi avec des gens qui nous comprennent à un moment donné, c'est ça aussi. Et puis, une personne qui pourrait avoir une envie sur un projet, bah, que la caravane soit porteuse aussi de ça.
Bien sûr.
Et puis donner de l'information, parce qu'on a de l'information. Hein, aujourd'hui, avec ce qu'on a tous les trois vécu, bah, on a de l'information à donner. D'orienter aussi sur bah, des accompagnements qui existent sur le territoire. Et peut-être à terme, effectivement, je pense que très très vite, on va peut-être mettre des groupes de parole en place, puisque ça vient vraiment à nous. Hein, on a vraiment des personnes qui nous contactent. Pas tous les jours, mais quasi, qui disent, bah voilà, moi je suis passée par ça et tout ça. Et on sent bien qu'il y a un besoin.
Alors comment ces personnes ont eu l'information justement pour pouvoir vous contacter?
Alors, bah déjà, via la diffusion...
Alors on aurait venu après.
Prêt, bon.
Ah zut.
Parce que d'abord, il y a la deuxième pause musicale, Soleil bleu de Louisa.
Oui.
Qui nous rejoignent ce matin dans l'émission À ta santé, Aurélie Guéniard-Daguisé nous parle de l'association Et Après. Si vous avez envie de réécouter l'émission, elle est disponible en podcast sur le site de la radio auderadio.fr dès la fin de l'émission. Et c'est important d'y aller et d'en savoir encore plus parce que c'est vraiment très important. Alors justement, comment elles vont s'orienter ces actions-là de l'association, ton action dans l'information, des constructions de projets, comment ça se passe tout ça?
Alors aujourd'hui, comme je le disais, on est une petite asso, ça fait à peine un an qu'on est créé, donc là on structure vraiment l'association pour se faire connaître. Parce que aujourd'hui, pas grand monde nous connaît, même si on commence un petit peu à nous voir à différents endroits. La première action, elle va être concrète, ça va être la caravane présente sur le territoire de l'Entre-deux-Mers. Voilà. Donc, je fais appel aux communes de l'Entre-deux-Mers large pour, s'il y a des collectivités, des mairies, des maires qui ont envie de nous accueillir sur les places du village, on est preneurs. Voilà. Donc, notre première action, véritablement, va s'orienter là-dessus. Être présent sur les places de marché, proche des pharmacies, proche des médecins. On ne se veut pas médical, d'accord ? On n'a aucune notion médicale. On n'est pas là pour soigner les gens. On est là pour informer, orienter. L'objectif de la caravane, ça va être ça. Dans un premier temps, ça va être informer, créer du lien pour que les personnes se sentent peut-être moins isolées. Créer un espace chaleureux.
Oui, quelque chose de plus informel peut-être.
Voilà, quelque chose de pas du tout formel en fait, oui. De pas du tout orienté, où les gens viennent prendre un petit café, un petit thé, partager un moment pour se poser et un lieu dans lequel les personnes se sentent suffisamment en confiance pour poser ce qu'elles ont à poser. Point. On n'a aucune autre prétention en fait, pour l'instant en tous les cas. À terme, peut-être qu'on va envisager des petits groupes de parole. Peut-être qu'à terme, si on a des moyens humains et financiers un peu plus conséquents que ce qu'on a aujourd'hui, on ira mettre en place des ateliers, etc. Et l'objectif, c'est de créer ensemble. Donc en fait, nous, on est une association, mais on n'a pas envie de travailler seul. C'est-à-dire que s'il y a d'autres associations, et c'est déjà le cas, s'il y a d'autres associations qui ont un projet, qui ont besoin d'utiliser la caravane ou de venir à nous pour créer des choses ensemble, on est preneur. Donc ça, c'est aussi un appel. Aujourd'hui, on a une petite asso sur Sadirac, une jeune femme qui a créé une association géniale qui s'appelle Saint-Dessous-Dessus, qui fait beaucoup de communication justement sur... c'est très orienté sur le cancer du sein, la femme jeune. Et elle communique beaucoup sur les réseaux sociaux, elle apporte beaucoup d'informations. Donc on s'est rencontrés, on va très certainement avoir des projets ensemble. On a été en contact aussi avec une autre association qui s'appelle Être Ensemble, qui est présente sur La Traîne, qui crée des cafés pour les aidants. Donc on s'est rencontrés, on s'est eu au téléphone, on va se rencontrer. Vous voyez, l'idée de la caravane, c'est un peu ça en fait. C'est créer une émulsion... d'envie de chacun, une personne qui a vécu, qui est en train de vivre l'après, qui se dit j'ai pas envie de rester toute seule chez moi, j'aime bien peindre, elle peut venir, elle sera la bienvenue, et si elle a envie de peindre quelque chose sur la caravane, allons-y quoi. Voilà, l'idée c'est ça, c'est aussi que la caravane soit un peu porteuse de projets. Mais pas des projets grandiloquents, de fous, des projets, à notre rythme, tranquille, en prenant en considération les besoins de chacun.
Oui, ça, c'est important. Peut-être des salons du bien-être pour faire connaître des professionnels qui peuvent aider sur l'après ou pas du tout ?
Alors, pour l'instant, on n'y a pas trop réfléchi, mais peut-être la présence, oui, de la caravane sur un parking d'un salon pour se faire connaître avec grand plaisir. Ouais, totalement. Et puis, la caravane va être aussi un lieu où nous, on va récolter un certain nombre d'informations. Donc des brochures sur des professionnels qu'on aura validés, attention, parce que c'est vrai que dans l'accompagnement il y a un peu de tout.
Je pense qu'il faut être précis.
Voilà, il faut être précis, vigilant, parce que notre public est un public qui peut être en vulnérabilité aussi, évoluant aussi dans l'univers du développement personnel, je sais qu'il peut y avoir vraiment de tout. Des choses très très bien comme des choses qui sont un peu plus litigieuses, et ça on va être très très vigilant là-dessus. Donc les informations qu'on apportera au sein de cette caravane seront expérimentées, validées, attestées pour que ça apporte quelque chose aux gens. Mais et oui, que ça ne fasse pas de mal surtout, ça c'est vraiment important.
C'est l'objectif en
tous les cas.
Et alors justement, dans ton association, comment elle parvient à à pérenniser ses actions, quels sont ses besoins principaux aujourd'hui pour continuer à construire ou co-construire, oui, comme tu as dit tout à l'heure, et comment tu fais pour transformer ce territoire qui est parfois, alors j'ai envie de dire parfois, souvent quand même, isolé, en un véritable réseau de solidarité, d'action, et qui sont les alliés de cette aventure humaine que tu as.
Alors, les alliés de cette aventure humaine, tu expliquais que parfois, sur ce territoire, il peut être assez disparate et il peut y avoir... Mais en fait, ce dont je me rends compte et ce dont je me suis rendu compte avec des casquettes d'élus, c'est que malgré ce qu'on voit, en fait, en sous-marin, c'est comme un iceberg, il y a plein de choses malgré tout qui existent et qui se font en solidarité, en réseau. Pas que forcément de la part des élus, il faut savoir que, et c'est factuel, qu'aujourd'hui, les trois communautés de communes de l'Entre-deux-Mers, que je connais en tous les cas, parce que l'Entre-deux-Mers, c'est très vaste et ça va bien au-delà des trois communautés de communes que j'ai citées bien en amont de cette question, travaillent beaucoup ensemble, en fait. On l'a vu, par exemple, lors du Covid, il y a eu une grosse solidarité pour monter un centre de vaccination sur l'Entre-deux-Mers. Et ça n'a pas été fait que via une commune, que via une personne. Ça a été fait vraiment en collaboration des trois communautés de communes, des volontés politiques aussi. Et ça, je veux le souligner parce que c'est important. Je ne suis pas dans la politique, je ne suis pas en campagne. Je suis là juste en nommant des faits. Et aujourd'hui, je dis ça parce que ça nous aide, nous, en tant qu'association, tout simplement parce qu'on a présenté ce projet individuellement à des élus de communes et de communautés de communes qui nous ont dit tous, c'est quelque chose qu'on va porter et qu'on va porter au-delà de la communauté de communes parce qu'il y a cette solidarité qui existe sur le territoire de l'Entre-deux-Mers. Et ça, je veux le souligner parce que c'est très, très important. Donc, effectivement, les élus, les collectivités, on ne peut pas faire fi de ça parce que si on en fait fi, notre projet, il a plus lieu d'être, en fait, parce que c'est un engagement aussi pour le collectif en collectif. Donc, on a besoin d'eux. Nos alliés, c'est également les associations, les entreprises TPE, indépendants, PME du territoire, parce qu'il en existe beaucoup. Et nous, on a eu la chance qu'un château de la Sauve, pour ne pas le nommer, le château Thiolet, ont développé en octobre une action liée à une journée du bien-être de la femme. Et tous les fonds ont été reversés à l'association, donc je les en remercie. Et on a une association de Sadirac, la SS aussi, Sadifrang, qui nous a apporté un don. Dernièrement, on a la communauté de communes des Coteaux Bordelais qui développe tout un pan culturel, qui a fait un concert très très bien d'ailleurs la semaine dernière sur la vie de... j'ai perdu son nom. Elisabeth Taylor Greenfield. Et tous les dons...
Du Reflet à Tresse.
Voilà, la salle du Reflet à Tresse. C'était vraiment une soirée hors du temps, assez chouette et extraordinaire. C'était au chapeau et tous les spectateurs ont répondu présent et tous les dons ont été reversés à l'asso. Donc en fait, voilà, c'est ça aussi. Et c'est ça qu'on a envie de construire aussi sur le territoire via l'association. Parce que sans ça, nous, on n'existe plus, en fait. Donc c'est les collectivités, les assos, les entreprises, les habitants. Et c'est ensemble qu'on va réussir à développer l'asso. Donc nos besoins, c'est des besoins humains. Parce qu'aujourd'hui, au sein du bureau, on est 4. Mais à 4, on ne pourra pas continuer très longtemps.
C'est surtout qu'on s'épuise.
On s'épuise et puis porter un projet comme ça, ce n'est pas possible de rester à 4.
Donc c'est du travail en réseau indispensable.
C'est du travail en réseau, en solidarité. Il y a certains médecins qui sont au courant. On travaille aussi avec la CPTS. Donc voilà, c'est créer tout un maillage sur les territoires. On a besoin humain, on a besoin financier, on a besoin logistique. On organise le 13 mars prochain en soirée à partir de 19h30 notre assemblée générale extraordinaire à Capian. Donc là, c'est pareil, c'est un partenariat très très chouette, puisque à Capian, à la monnerie, il existe un lieu très chouette qui s'appelle Villa Ma Vie, sur lequel on peut se faire accompagner par plein d'accompagnateurs super qui nous prêtent une salle pour faire organiser cette assemblée générale où vous allez pouvoir découvrir la caravane en avant-première. Donc si vous avez envie de venir, vous êtes les bienvenus, contactez-nous et on vous mettra sur notre liste d'invités.
Alors justement, comment on fait pour contacter l'association? Parce que l'heure avance, donc du coup, ouais. Ce que je propose, c'est que la troisième pause musicale, on la fasse en générique de fin.
Eh bien, génial.
Plutôt. Et alors, du coup, comment on peut vous joindre l'association?
Alors, tout simplement, il y a un site où il y a toutes les informations. Ce site s'appelle www.e-6-cancer.fr. Vous tapez juste « et après » sur votre moteur de recherche préféré et vous allez nous trouver. Il y a toutes les informations, vous trouverez le numéro de téléphone, les liens avec les réseaux sociaux. Si vous voulez adhérer, si vous voulez faire un don, on a un lien Eloasso. Et puis le plus simple, c'est de taper le numéro de téléphone, de nous contacter et on sera là pour vous répondre.
Super, merci beaucoup Aurélie. Alors juste avant de parler du don du sang, que je laisserai Juliette nous en parler. Juste avant, moi, j'ai une petite annonce pour des journées portes ouvertes, justement, du cabinet Comme un poisson dans l'eau. C'est un hypnothérapeute, il s'appelle Stéphane Maric. Il ouvre ses portes ce samedi de 10h à 18h au 1 avenue du Périgord à Pompignac. Donc, allez-y, c'est de 10h à 18h, c'est à Pompignac. Le cabinet s'appelle Comme un poisson dans l'eau. Et c'est génial, en fait, de pouvoir aussi accueillir sur des temps de portes ouvertes, justement. Et je te laisse, Juliette, la parole pour nous parler du don du sang.
Alors, comme vous le savez, le don du sang est indispensable et permet effectivement de soigner, en tout cas d'apporter l'élémentaire à nos patients qui sont hospitalisés et on manque cruellement de dons. Donc nous avons des prochaines dates donc à vous annoncer avec des dons du sang possibles de manière mobile. Donc où que vous soyez, notamment à Bordeaux, le mardi 3 février, donc aujourd'hui, vous pourrez vous rendre donc du côté de la gare Saint-Jean à la salle Dordogne et cela se passera de 8h à 12h. Donc allez-y, vous êtes attendus et je crois qu'il y aura peut-être un petit peu de réconfort après. Alors, nous avons également du côté de Gradignan, Agro-Rotonde, je crois que c'est une salle, Rotonde Pisani. Donc, entre 9h30 et 13h30, toujours aujourd'hui. Voilà, notez bien tout ceci sur vos tablettes. En suivant, donc, mercredi 4 février, à Pau-d'Ansac, la salle polyvalente Le Sporting, de 15h30 à 19h. Mercredi, à l'Aréole, la salle donc, de l'Amicale laïque, de 15h à 19h. Et nous avons également jeudi, nous revenons sur Bordeaux, donc dans l'enceinte du lycée Gustave Eiffel à la maison des lycéens, de 8h45 à 17h. Voilà, après, non, là, je me suis trompée. Effectivement, c'était, non, je ne me suis pas trompée. Si, je me suis, non, je ne me suis pas trompée. Je vois le regard de Valérie. J'hésitais, voilà, je suivais, puis du coup, les dates ont défilé, et voilà. Et donc, à nouveau, vendredi 6 février, à Lormont, à l'espace Brassens-Camus, de 15h30 à 19h. Ce même vendredi, également, à Saint-Médard-en-Jalles, donc à la salle Antonin-Labrocque, de 15h à 19h. Voilà, Valérie, je peux aller jusqu'à quelle date? Qu'est-ce que
parce jusqu'à
que
lundi prochain.
Jusqu'à lundi
même
prochain.
Jusqu'à mardi prochain.
Jusqu'à
même.
Mardi prochain. Donc, alors j'en étais à vendredi 6 à Saint-Médard. Donc, vous avez bien noté que c'était à la salle Antonin Labrocque de 15h à 19h. Et lundi 9 février, Margot Cantenac au château Kerouan de 15h à 19h. Ce même lundi, à Arès, domaine des Lugés, de 15h à 19h également. Et nous arrivons au mardi 10 février, à Florac, à l'espace Lucie Aubrac, de 15h30 à 19h. Nous passons à la commune de La Teste du Buch, au théâtre Cravé, de 15h à 19h également. Et je pense que nous sommes arrivés au mardi, Valérie.
Super, alors du coup, mardi prochain, le 10.
Alors, mardi prochain, donc le 10, ce que je viens de dire, ça se situera à La Teste de Buch, au théâtre Gravé, de 15h à 19h.
Ok, super.
Voilà, c'était pour la dernière date à annoncer.
Aurélie a quelque chose à nous dire.
Aurélie.
Oui, je profite de ce que vous venez de dire sur le don du sang pour remettre une petite couche. À aujourd'hui, moi, si je n'avais pas eu des gens qui avaient donné du sang, il est fort probable que je ne sois pas là. Donc, c'est pour vous dire l'importance de cette solidarité ensemble. Un don du sang, ça coûte rien. Juste une petite piqûre et juste voilà, de manger une bonne petite collation après.
Voilà.
Mais ça peut sauver des vies. Donc allez-y, allez-y. Et le don du sang, mais aussi le don d'organes, le don de
plasma,
moelle osseuse et le don de plasma. Mais le don de plasma, c'est avec le sang.
Oui. Et de plaquettes.
En effet.
Et de plaquettes.
En effet.
Ça, c'est vraiment essentiel. Et cette solidarité, c'est important de la continuer parce que ça sauve des vies.
Ouais.
Alors, merci à toi, Aurélie, de nous avoir parlé justement de l'association Et Après. On peut la voir sur les réseaux.
Bien sûr.
Donc, il faut y aller. N'hésitez pas à cliquer aussi et d'aller voir le site internet. La semaine prochaine, je recevrai Laure Pestouri qui nous parlera du bien-être canin et de la prévention. J'avoue, moi, j'ai peur des chiens, donc ça tombe bien. Va m'expliquer un peu comment on fait pour...
On gère.
Voilà, il faut gérer, exactement. Je remercie Juliette pour nous avoir accompagnés.
Merci à toi.
Frédéric pour la technique. Et on est parti, donc notre troisième pause musicale qui nous servira de générique aujourd'hui, exceptionnellement, puisque il y avait vraiment beaucoup de choses à dire et c'est chouette. C'est « Mon ami la rose » de Françoise Hardy.
On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant, j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de jardin. On met bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête et je sens que je tombe et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon amie. Moi en rêve j'ai vu éblouissante et nue son âme qui dansait. Celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ou bien si peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin.